Europe 1,
16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de bonne humeur et de découverte pour vous, de compétition et de stress pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Un seul repartira avec la couronne de chroniqueur du jour. Dans la rédaction, l'atmosphère est désormais irrespirable. Les tensions sont pires qu'entre les candidats de Top Chef avant une nouvelle saison. Cette compétition féroce, notre invité d'honneur la connaît. Bonjour Michel Sarand.
Bonjour.
Vous êtes un de nos plus grands chefs, doublement étoilé au Michelin pour votre restaurant toulousain. Depuis 2015, vous êtes membre du jury de Top Chef qui revient ce soir donc sur M6 pour une 11e saison. Vous qui au départ, paraît-il, aviez hésité, finalement vous êtes mordu. C'est une émission aussi addictive pour les téléspectateurs que pour les gens qui la font.
Oui, enfin, au départ je savais pas et donc j'ai refusé carrément de participer. Et puis bon, ils ont insisté, ils ont su me convaincre et aujourd'hui je m'y sens bien. C'est addictif. Oui, peut-être. C'est vrai que c'est agréable tous les ans de repartir avec cette bande de comparses et on passe des bons moments. Et puis c'est quand même, au niveau culinaire, il y a des choses hyper intéressantes aussi.
On va parler du retour de Top Chef et de gastronomie en général. Le temps de vous présenter ma brigade à moi. À commencer par mon bras droit, ma chef de brigade. C'est à elle que je refile le sale boulot. Comme par exemple recadrer les journalistes qui, durant la coupure pub, en font des caisses avec l'invité. Hier, par exemple, Fred Goetti, notre expert musique, a quand même comparé Mathias Malzieu à John Lennon. Moi, j'osais pas le couper, c'était un peu gênant. Alors j'ai fait un signe à Eva pour qu'elle intervienne.
Non, il y a des tubes en puissance. Il n'y a aucun morceau qui fait plus de 3 minutes et des poussières. C'est des morceaux assez courts. Petit côté Sgt Pepper dans l'ensemble, je trouve. Le côté à la fois conceptuel et on peut sortir chaque chanson. Mais pas nostalgique, ça qui est fort. Pas nostalgique, pas revival.
On avance un petit peu.
Bonjour Eva Rock, heureusement que vous êtes là.
Vous me donnez les ordres, je les fais exécuter. Bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz, parce que vous êtes notre expert média,
on rappelle, vous
nous direz ce qu'on regarde ce soir à la télé. Peut-être Top Chef, je ne sais pas, je dis ça comme ça, une idée.
Je ne sais pas, je vais réfléchir.
Vous réfléchissez. Ouais.
Si Michel Sarand est sympa, peut-être que je dirais de regarder Top Chef.
Alors Michel, Eva est hors compétition, eux, non. À ma gauche, il n'est pas seulement un scientifique de renom, directeur de la revue Ciel et Espace, c'est également un facétieux Ludion, toujours prêt pour la déconne. Comme le prouve cette anecdote qu'il nous a racontée jeudi hors antenne, un truculent canular qu'il avait projeté pour déstabiliser le système financier mondial qui aurait pu marcher.
Un jour, j'ai voulu faire une blague à l'époque du 1er avril, tu sais. Wow. J'avais publié dans Ciel et Espace une petite annonce expliquant qu'on avait trouvé un astéroïde en or et qu'il allait rentrer en collision avec la Terre.
Ah oui.
Et mon idée, c'était que la bourse s'effondre.
Ah ouais, bah oui, c'est clair.
Sauf que les boursiers lisent pas Ciel et Espace.
Caramba, encore raté, Alain. Comment être scientifique et savoir s'amuser quand même, hein. Aujourd'hui, Alain, avec quel sujet allez-vous tenter d'emporter la précieuse couronne ?
En parlant des limites, mon cher Mathieu.
Des limites de qui ?
Ben, nos limites à nous. Je pense que Michel Sarand comprendra ce que veut dire atteindre ses limites, c'est-à-dire pousser, travailler. Où sont nos limites ? Et c'est une question scientifique qui est plus large. Est-ce que l'homme, l'espèce humaine aujourd'hui, a atteint ses limites ? C'est très intéressant d'en discuter.
Mais on dit toujours qu'on exploite que je sais pas quoi 20% de notre cerveau et en fait je vous en prie, Eva, ne soyez pas
une caricature, mais
c'est un peu ça. Ouais. À ses côtés, Michel Sarand, ne vous fiez pas aux apparences. Côté pile, c'est une femme élégante, chic, ambassadrice de l'élégance à la française. Mais côté face, dès qu'elle se met à rire, c'est la sœur jumelle de Patrick Sébastien.
Ben justement, peut-être qu'on pourrait s'y mettre.
C'était vous ça. Vous êtes notre éditorialiste sport. Et aujourd'hui, c'est un message choc à toutes les mamans et papas qui emmènent leurs enfants au foot. Attention aux têtes.
Attention aux têtes, oui. Est-ce que si on jouait au football sans faire de tête maintenant, parce qu'il y a des études universitaires qui nous montrent les dangers du jeu de tête, les footballeurs et footballeuses sont beaucoup plus à même de mourir de démence que le reste de la population. Il y a des études qui font vraiment peur et donc aujourd'hui on commence à se demander comment on va pouvoir faire sans, et les petits footballeurs et footballeuses n'ont plus le droit de faire de tête dans beaucoup de clubs et dans beaucoup de fédérations.
Sinon faites comme moi, inscrivez-le au ping-pong, il y a moins de risques. Merci Virginie Fulpin, le programme est donné, l'équipe est sauvage, peut démarrer.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
C'est donc le chef étoilé Michel Sarand qui nous accompagne cet après-midi pour le retour de Top Chef. On va commencer par une question très pragmatique, Michel, vu que vous nous faites l'honneur d'être là. Peut-être pour Eva Rock, qui a du mal à distinguer certains produits. Quelle est la différence entre une langoustine et une écrevisse, Eva ? On peut raconter ce qui s'est passé hors antenne tout à l'heure ?
Alors, je vous explique. Dans le premier... Michel, ne riez pas. Dans le premier épisode de Top Chef, que vous allez pouvoir voir ce soir, avec la musique, vous êtes bête. Michel Sarran propose au candidat une épreuve qui s'appelle le monoproduit. Il faut cuisiner dans plein de, de plein de façons différentes un seul produit. Et il fait la démonstration, et on en parlait hors micro, il disait « Ah oui, votre plat aux écrevisses avait l'air sympa. Ouais. » Et qu'est-ce que vous m'avez répondu?
Bah, j'ai eu peur. C'est où est-ce que j'ai mis les pieds?
Parce que ce n'est pas des écrevisses.
Non. La différence au départ, c'est l'eau. Hein. Il y en a une qui est salée, l'autre qui ne l'est pas. Quoi.
Voilà, c'est la langoustine.
Une légère différence entre la langoustine et l'écrevisse, ma pauvre Eva. Ah, j'ai honte, mais je vous aime quand même.
Mais alors... elle n'a pas proposé de m'inviter à goûter sa cuisine.
Non, dites-lui un café tout au plus, mais n'acceptez jamais l'invitation à dîner. Michel Sarran, ce soir, c'est la 11e saison de Top Chef qui démarre. Vous avez intégré le jury en 2015. Et vous le disiez tout à l'heure au début de l'émission, à la base, vous aviez dit non. C'était parce que c'était vous qui ne connaissiez pas ce genre de programme, ou c'était une autre époque où ça paraissait encore, un chef pouvait se demander si c'était bon pour son image ou pas?
Non, c'est par rapport à une expérience que j'avais eue. J'avais fait une première émission qui s'appelait Cuisine Sauvage pour France 5, où j'étais parti avec un espèce de fou, un ancien des forces spéciales. Enfin, c'était assez amusant, on est parti une semaine, c'est une mission très sympa à faire. Et après, j'ai été contacté par une autre chaîne, pour une nouvelle émission. Le casting a duré un peu longtemps, ça m'a un peu énervé. À la fin, je n'ai pas été pris. Bon, je dis, mais il faut que j'arrête ça, c'est pas fait pour moi. Et lorsque M6 m'a appelé quelques jours après, je pense que j'étais un peu remonté, j'ai dit non.
Non, tout simplement.
Et en plus, c'est vrai que je ne connaissais pas Top Chef. Vous savez, quand on est cuisinier, on se divertit rarement avec des émissions de cuisine. Quoi.
Voilà. Effectivement. Et Top Chef, ça marche toujours aussi bien, Eva. Hein,
plus de 3 millions de téléspectateurs sur la dernière saison. C'est vraiment une émission qui perdure avec des taux d'audience extrêmement importants.
Et j'imagine qu'aujourd'hui, être membre du jury de Top Chef, c'est très envié parmi les autres chefs. Il ne doit pas y avoir de chefs qui disent comment je pourrais faire pour intégrer le jury.
Oui, ou même pour participer à l'émission en tant que chef invité. Et quand on voit l'année passée le plateau qu'on a eu la chance d'avoir, d'Alain Ducasse à Pierre Gagnaire, Yannick Alléneau, etc. Donc, à une époque, les chefs ne voulaient pas participer. C'était pas très bien vu. Maintenant, c'est une émission qui a vraiment acquis ses lettres de noblesse et qui s'est inscrite dans le paysage gastronomique français.
Et qui fait naître des étoilés aussi. Parce que le nombre de candidats qui sont étoilés aujourd'hui, c'est important.
C'est là qu'on voit que c'est un concours qui est d'un très bon niveau, avec des épreuves hyper compliquées. Et quand on voit la sortie du Guide Michelin cette année, avec Stéphanie Lequellec qui a pris 2 étoiles d'entrée, bon, elle les avait eues.
Elle les a re-eues d'entrée.
Ouais, ce qui n'est pas évident. Adrien Descoules, un candidat que j'avais eu, moi, dans ma brigade il y a 2 ans ou 3 ans, qui a été étoilé en Auvergne cette année, et d'autres, plein d'autres. Non, c'est vraiment c'est un concours qui est reconnu.
Top Chef, le programme Faiseur d'étoiles, revient sur M6 ce soir pour une 11e saison. Michel Sarran est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si, après l'arbitrage vidéo, une nouvelle règle débarquait dans le foot, l'interdiction de faire des têtes? Une étude très sérieuse démontre qu'il y aurait plus de cas de démence précoce chez les footballeurs que dans le reste de la population, alors que chez les journalistes, normalement tout va bien. Enfin, c'est peut-être juste qu'aucun journaliste n'a participé à l'étude. Hein. Bref, faut-il interdire les têtes au foot? On pose la question, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, vous écoutez L'équipe est sauvage. 2 heures d'une joute verbale et intellectuelle de haut vol entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Vous votez pour votre sujet préféré via Twitter. Et en fin d'émission, notre invité d'honneur Michel Sarran viendra inspecter les assiettes. Une inspection aussi minutieuse et impitoyable que dans Top Chef.
Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde.
Oh, voici Michel, notre première concurrente du jour. Mercredi dernier, elle avait épaté notre invité, Monsieur Poulpe, par sa réactivité journalistique.
Les Houston Astros, donc un des gros clubs américains de baseball, a triché pour devenir champion des États-Unis en 2017.
Ah, c'est de l'info assez fraîche, quoi.
Bonjour Virginie Fulpin.
J'avais voté pour vous.
Aujourd'hui, aussi, d'ailleurs, elle avait voté pour moi.
Mais bien sûr.
C'est un thème très concernant et, disons-le, un peu flippant que vous avez choisi de traiter. Une étude révèle que les joueurs de foot seraient plus sujets à la démence que les autres.
C'est une étude de l'université de Glasgow qui fait froid dans le dos. Les footballeurs ont 3,5 fois plus de risques de mourir de démence que les autres, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de maladies d'Alzheimer et autres maladies neurodégénératives que dans le reste de la population. Et suite à cette étude, la Fédération écossaise de foot est devenue la première en Europe à interdire le jeu de tête chez les petits footballeurs et les petites footballeuses jusqu'à 12 ans. Alors pourquoi les enfants? Parce qu'ils ont le cerveau plus fragile que les adultes, évidemment, un cerveau en phase de développement, donc les conséquences d'un choc sont évidemment plus importantes. Les enfants n'ont pas non plus l'ossature et la musculature pour amortir les chocs de la tête. Les États-Unis ont eux aussi mis en place des mesures restrictives, mais eux, il faut dire qu'ils avaient l'exemple des commotions cérébrales dans le foot américain, évidemment. Ça a été très médiatisé. Et donc, derrière, le soccer, comme on dit là-bas, a agi. Le jeu de tête est donc interdit pour les moins de 10 ans et très réglementé aussi pour les moins de 13 ans. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une équipe de jeunes, quelqu'un qui fait une tête dans un match, hop, l'arbitre siffle et c'est coup franc indirect pour l'autre équipe. Comme ça, a priori, il ne recommence pas.
Ah, c'est comme faire une main, quoi. En gros.
Exactement.
C'est une faute. En France, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation restrictive.
Non, parce que la France, elle préfère attendre une concertation internationale avant de prendre une décision radicale. Mais bon, cette concertation, elle est en cours. La Fédé a d'ailleurs lancé en 2015 une grande étude dont les résultats devraient être connus au mois de mars, normalement. C'est une étude auprès de tous les joueurs qui ont disputé au moins un match de Ligue 1 ou de Ligue 2 depuis 1950. Donc ça fait du monde. Ouais, le but, c'est de déterminer le nombre de joueurs atteints de démence. Et puis à partir de là, évidemment, il faudra déterminer les causes exactes et agir en fonction. Donc c'est un problème qui est pris très au sérieux aujourd'hui. Il y a déjà quelques petits aménagements qui ont été faits pour les plus petits, notamment ballons en mousse, des ballons en cuir pas très gonflés pour qu'ils puissent faire des têtes quand même et s'exercer sans que ce soit dangereux. Et puis au-delà des enfants, on doit aussi s'attendre à de nouvelles règles pour les adultes. Aujourd'hui, par exemple, on n'a plus le droit de mettre les coudes pour s'élever quand on veut faire une tête. Et la fédération, en tout cas, nous dit que ça a diminué de 25% les commotions cérébrales. Donc, il n'y a pas plus de preuves que ça, mais apparemment, ça marche quand même. Donc, le problème est pris au sérieux. Et puis, c'est vrai qu'avant, on avait plutôt tendance à considérer que les commotions cérébrales, c'était réservé au rugby, à des sports de contact. Là, le foot se dit, mais visiblement, on est aussi un petit peu concerné. Donc, tant mieux si ça évolue.
Ouais, moi, j'étais ailier gauche, je faisais beaucoup de têtes et je comprends mieux mon état aujourd'hui. Je comprends mieux d'où ça vient. Mais il y a une question qui se pose qui est intéressante, au-delà de effectivement, l'aspect médical, mais c'est qu'aux États-Unis, vous dites qu'ils ont déjà pris des mesures. C'est-à-dire que les jeunes joueurs, même destinés au plus haut niveau là-bas, n'apprennent pas à faire de têtes probablement à partir de 11 ans. Ça crée un différentiel sur la scène internationale ensuite dans les Coupes du Monde. C'est quand même gênant de ne pas s'exercer aux têtes.
C'est pour ça qu'il y a besoin, je pense, d'une réglementation internationale pour harmoniser, effectivement, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité.
Michel Sarran, la compétition footballistique, ça vous intéresse, le sport, vous avez pratiqué ?
Non, j'ai pas pratiqué de sport, mais j'adore le rugby. Moi, c'est plutôt ballon ovale et c'est surprenant parce que les chocs sont beaucoup plus violents quand même en rugby.
Mais il y a aussi toute une réflexion qui est menée dans le rugby en ce moment.
Mais visiblement, il y a moins de démence chez les rugbymen. Est-ce qu'au départ, il y a pas un terrain
une prédisposition intellectuelle, c'est ça que vous voulez dire, peut-être. Nous ne tranchons pas le débat.
C'est moche.
Europe 1. À suivre, à l'occasion de la nouvelle saison de Top Chef qui démarre ce soir sur M6, on a à cœur de mieux connaître Michel Sarran, l'homme derrière le juré. Voilà ce qui vous attend. Et puis, si au passage, Michel, vous pouvez filer 2-3 trucs à Eva pour qu'on soit plus obligé de se munir d'Imodium quand on va dîner chez elle. La dernière fois, son omelette a failli nous être fatale.
C'est tout jaune et vert.
Mais et le vert, c'était pas de la ciboulette, Michel. C'est ça, le problème, c'était ça. Il y a un gros travail de coaching à faire. On s'en parle juste après Always the Sun, les Stranglers sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage et l'équipe est sauvage, c'est un peu comme un pitivier de canard à la pistache caramélisée sur son lit de nénuphar aigre doux. Ça n'existe pas et pourtant quelqu'un l'a fait. J'ai pris les meilleurs journalistes d'Europe 1, ou tout du moins ceux qu'on a bien voulu me donner, je les ai jetés dans une grande casserole bouillante qu'on appelle le studio Coluche et je leur ai dit battez-vous. Ça peut paraître cruel à certains invités.
C'est atroce de se noter entre amis.
Mais on n'est pas amis.
C'est ça la clé. Chaque après-midi, ils se surpassent service de votre culture G. Sous l'œil d'un invité d'honneur, aujourd'hui le chef étoilé Michel Sarran, qui tente d'apprendre les rudiments de la cuisine à Eva Rock. Durant la coupure pub, il lui a demandé si elle connaissait la recette de l'œuf à la coque. Elle a répondu
« Oula, c'est compliqué hein !»
Donc voilà d'où on part. Alors avant de revenir dans le détail sur cette nouvelle saison de Top Chef ce soir sur M6, il faut revenir sur l'info de la fin de semaine, Eva, l'affaire dite de la gastro-entérite. Cette 11e saison de Top Chef est déjà évidemment intégralement enregistrée et la finale a failli ne jamais avoir lieu, comme le révélait le Parisien. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais ça, c'est une non-information. Rien n'est grave. Enfin, gastro-entérite, tout le monde peut la choper.
Quand ça arrive dans Top Chef, parce que là, c'est annulé toute une émission.
Chef, on a annulé le tournage de l'émission de la finale parce que c'était trop délicat et on l'a décalé d'une semaine. Alors, c'est vrai qu'en termes d'organisation pour la chaîne, ça a été un peu compliqué, mais c'était la décision qu'il fallait prendre. Point barre, ça peut arriver, rien de plus, quoi. Aucun lien avec un coronavirus.
Déjà, ça on le sait. Que fait un chef lorsqu'il est malade? Est-ce qu'un chef malade peut aller travailler? C'est-à-dire que nous, par exemple, on peut exercer notre métier dans un sale état, prendre un dafalgan, un truc, mais un chef... Mais,
de toute façon, vous êtes malade, là, tout ça.
Je ne parle pas de notre condition intellectuelle, d'accord. Je parle juste de notre... Okay.
Mais nous, bien sûr, lorsqu'on a des maladies qui peuvent être contagieuses ou autres, on sort de la cuisine... On a des brigades, on travaille. Voilà. Alors, un chef qui travaille seul et qui a une gastro-entérite, il n'a pas d'autre choix que de fermer la porte.
Ouais. Non, mais pour rebondir et plus sérieusement, Michel Sarran, est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous soyez dans des conditions physiques vraiment très très bonnes quand on est chef? Est-ce que c'est un métier physique?
Un côté sportif?
Oui.
Mais c'est bien sûr que c'est un métier physique. D'abord, souvent on fait des heures assez conséquentes. Et puis voilà, il faut une résistance. C'est intense. Les coups de feu sont intenses. Il y a de la pression. Oui, il vaut mieux être. Enfin, après, je suis pas un sportif de haut niveau non plus quand même. Hein.
Mais vous avez fait le marathon de New York en 2006.
Oui, c'est vrai. Mais c'était en 2006. Ouais. Voilà.
Ah oui, vous n'êtes pas sportif, quand même.
Non, mais enfin, j'ai quelques collègues chefs, il suffit de les voir pour comprendre que le sport n'est pas leur sujet principal.
Est-ce que c'est pas écœurant quand on vous voit goûter tous ces plats? Alors nous, ça nous met l'eau à la bouche, mais vous les goûtez vraiment. Donc à un moment, est-ce que c'est pas difficile de goûter certains plats quand
C'est notre métier. Bien sûr que lorsqu'on me fait goûter des rognons de veau crus Gravelax à 10h du mat, c'est un peu compliqué parce que l'émission est diffusée à des heures qui pourraient être des heures de repas, mais en fait, c'est enregistré. Et un jour, il y avait eu cette épreuve de nous faire goûter des plats et des produits que l'on n'aime pas. Moi, c'est les abats. Et je vous assure que le rognon Gravelax à 10h du mat, c'est compliqué. Ça laisse des traces.
On imagine.
Une question qui paraît anecdotique, mais vous êtes le seul chef à porter une veste noire,
oui.
Alors que tous ont une veste blanche. Pourquoi?
C'est une petite histoire que maintenant tout le monde connaît, donc ça a mal fait votre boulot.
Mais si, Michel Sarran, c'est que moi je la connais, mais Mathieu Noël, vous ne la connaissez pas.
Non, moi je ne la connais pas.
Mais oui, Mathieu ne la connaissait pas.
En fait, c'est une par coquetterie, il y a pas mal de temps, donc c'était en 2003, sur un salon professionnel. J'ai essayé des vestes noires, je trouvais que c'était plutôt élégant. Et voilà, j'en ai commandé deux. Elles sont arrivées le jour où j'ai eu ma deuxième étoile Michelin. Et donc depuis... voilà. Et puis après, je me suis aperçu que ça avait aussi quelques vertus amincissantes sans trop souffrir. Non, c'est vrai,
c'est noir, que le noir, c'est
d'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de personnes habillées en noir sur ce plateau.
Effectivement. Oui, c'est vrai. Top Chef redémarre ce soir pour une saison riche en tribulations gastronomiques et gastriques. Michel Sarran passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Et si, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce qu'on lit parfois et ce qu'Evaroc nous démontre quotidiennement, le cerveau humain avait déjà atteint ses limites? Alain Sirou, notre consultant scientifique, avance que l'homme a atteint un palier dans son évolution, aussi bien sur le plan des performances intellectuelles que physiques. Mais en même temps, peut-on faire confiance à quelqu'un qui porte des lunettes de pédodélinquant moldave des années 80 et qui arrive en soirée
avec des racines carrées dans le derrière et puis...
Je vous laisse seul juge, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la frontière du journalisme et du rire, en compagnie d'un invité d'honneur aujourd'hui, le chef étoilé Michel Sarran, que vous retrouvez ce soir sur M6 dans Top Chef, qui redémarre pour une 11e saison. On continue d'en parler, mais ici Michel, comme en cuisine, quand c'est chaud, il faut envoyer. Or lui, il est très très chaud. Adolescent déjà, alors que ses camarades fantasmaient bêtement devant des posters de Marilyn Monroe, lui se donnait du plaisir avec des modèles réduits de grosses fusées spatiales. Aujourd'hui, il a réussi. Il est une en les construisant, je veux dire. Il est une pointure de l'astrophysique. Il fait partie de ces pontes qui manient et parfois se réfugient derrière un langage scientifique obscur. Par exemple, c'est le genre de type qui ne dira pas « Oh, vendredi pour la Saint-Valentin avec ma femme, j'ai pris un tube de Viagra ». Mais plus habilement...
Et avec le temps, parfois, il remonte, il s'échappe par des fissures dans l'écorce terrestre. Et là, il se durcit, il se transforme en particules microscopiques qui s'infiltrent dans les filons aurifères plus ou moins riches.
Sacré Alain. Mes hommages à madame. Alors Alain, aujourd'hui, vous émettez une hypothèse finalement un peu triste ou nette. L'homme aurait déjà atteint le maximum de ses capacités physiques et intellectuelles.
Oui, avec un objectif qui est de se maintenir au niveau. Non, plus sérieusement, quand on regarde effectivement objectivement, je dirais la nature humaine en termes d'âge, de taille, de performance sportive, et je parlerai sous le contrôle de Virginie, et peut-être même de QI, il semble que l'être humain ait atteint un palier. Prenez l'âge, par exemple. Jeanne Calment est morte à 122 ans, 122, 5 ouais. mois et 2 semaines. C'est important. Hein. Donc, c'était en 1997, ça n'a jamais été dépassé. Par contre, on voit beaucoup plus de centenaires, mais qui atteint 115 ans et qui ne dépasse pas. C'est intéressant parce que ça montre qu'effectivement, on a là sur la question de la durée de la vie humaine un palier. espérance de vie à la naissance. On a vu effectivement que en France, par exemple, depuis 1945, on gagnait 3 mois par an.
Et là, on gagne toujours, parce que j'avais lu, je sais pas si c'était peut-être pas dans un magazine sérieux comme Ciel Espace, mais j'ai vu que l'espérance de vie avait baissé.
Ça s'est stabilisé. Et vous avez, pour la première fois, des variations en France. Donc en France, je vous rappelle que c'est 79,8 ans pour un homme et 85,7 pour une femme. Mais on voit des pays, et pas n'importe lesquels, hein, États-Unis, Russie et d'autres pays dont l'espérance de vie baisse.
Ah voilà.
Alors là, pour des raisons qui sont vraisemblablement liées à des raisons, je dirais, de nourriture, obésité, un tiers d'obésité importante, hein. Peut-être même aussi circonstances économiques, environnementales. Bref, là, vous avez vraiment quelque chose qui, de toute façon, a tendance à s'aplatir.
Mais si l'homme normal ne peut pas vivre plus de 115 ans, disons, s'il a atteint ce seuil-là, l'homme bionique, en revanche, si on nous greffe avec des organes artificiels ou des peut-être qu'on pourra vivre sans limite.
Oui, vous pouvez effectivement imaginer cela, mais je dirais si on reste juste à Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire nous, on regarde finalement dans l'histoire, pratiquement il y a 40 000 ans, Cro-Magnon. Cro-Magnon, on va prendre la taille de Cro-Magnon, c'était 1,70 m. Et puis, finalement, il s'est un peu tassé sur lui-même en raison de conditions économiques qui étaient extrêmement difficiles, naturelles qui étaient difficiles. Et là, on peut parler de la taille. La taille aussi, au XXe siècle, on a grandi de 10 cm en Europe. Et là, on voit aussi que ça se stabilise, voire même ça commence à descendre. Alors, en Afrique, par exemple, en Ouganda, en Égypte, en Sierra Leone, etc., les populations deviennent plus petites. Alors, sur la performance sportive, c'est très drôle aussi. Longueur, Michael Powell, 8,95 m, c'était en 1991. Hauteur, 2,45 m, Sotomayor, le Cubain, c'était en 93. Usain Bolt, 100 mètres, ça c'est plus récent, 9,58 secondes, c'était en 2009. Mais depuis, plus rien. Les études montrent que les 10 meilleurs records dans 70 disciplines sont restés pratiquement stables. Et ce qui est drôle aussi, c'est que ça s'essouffle chez les chevaux de course, chez les lévriers, etc. On voit bien qu'on a atteint partout une sorte de palier et que tout semble effectivement amener vers quelque chose qui est une limite qu'on tient. Et puis, le vrai débat, la vraie question qui est extrêmement importante chez les scientifiques aujourd'hui...
L'intelligence, est-ce qu'on est au max ?
Voilà, c'est l'intelligence. Et alors là, pour l'intelligence, évidemment, tout le monde s'engueule parce que qu'est-ce que c'est que l'intelligence ?
Difficile à
le
définir.
QI, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, on peut discuter de la nature du thermomètre, mais un des spécialistes du QI explique que nos enfants sont plus bêtes que nous et les leurs risquent d'être encore plus stupides. Donc il y a une vraie attaque, en quelque sorte, sur deux facteurs. Le premier facteur sont les écrans, bien évidemment,
qui
laissent penser qu'on a commencé à délocaliser en quelque sorte notre attention et surtout notre mémoire à des objets numériques, à des ordinateurs, etc. Puis la seconde chose qui est peut-être plus inquiétante, c'est les conditions environnementales et en particulier la production chimique dans l'environnement qui entre 1970 et 2010, c'est-à-dire 40 ans, a été multiplié par 300. Est-ce que nous sommes affectés dans la reproduction par une augmentation du nombre de perturbateurs endocriniens et autres ? Et ça, c'est une vraie question. Donc, une observation moyenne globale sur l'ensemble de la Terre qui est que nous avons atteint nos limites. Et aujourd'hui, la question, c'est comment faire pour les conserver à minima.
Merci beaucoup, Alain Sirou. Michel Sarran, est-ce que vous pensez qu'en cuisine, en gastronomie aussi, vu la multiplication d'ailleurs des émissions là-dessus, tout le monde peut s'informer, on peut voir des tutos sur Internet. Est-ce qu'on a atteint un palier dans la gastronomie aussi ? Ou est-ce que la créativité culinaire vaincra toujours ? On trouvera toujours des chefs pour inventer de nouveaux plats incroyables.
Bah d'abord, ça fait flipper là, tout ce que je viens d'entendre. Et surtout que l'autre jour, j'entendais que l'homme qui vivrait 200 ans est peut-être né.
Mais là, vous êtes censé considérer ce qu'on appelle l'homme amélioré, c'est-à-dire qui se marie avec la technologie.
L'homme avec des puces.
Moi, je suis resté sur Homo sapiens sapiens. Hein. Vous, moi.
D'accord. Moi, comprendre.
Vous comprendre, Michel Sarran.
Et donc, en cuisine.
Oui, non, j'espère que dans tous les domaines, il y aura toujours cette petite folie qui fera que la créativité sera là et nous surprendra toujours. Et d'un point de vue culinaire, si on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, bon, un Ferrand Adrià qui a fait naître la cuisine moléculaire, enfin, la cuisine a beaucoup évolué. C'est un reflet de la société. La société continue d'évoluer. La musique évolue, la peinture évolue, et voilà. Et j'espère, ça serait flippant de se dire que c'est fini, qu'on a atteint un palier et qu'on sera condamné à aller manger La même des omelettes.
Des omelettes chez les Larocques. Ça serait vraiment, je vais vous dire, avec ça serait la fin de la civilisation. Ça serait l'effondrement civilisationnel. En attendant, Top Chef revient ce soir sur M6.
Europe 1.
Michel Sarron, l'un de nos plus grands chefs, nous accompagne cet après-midi à l'occasion du retour ce soir sur M6 de Top Chef. Alors Michel, pour vous hisser sur les cimes de la gastronomie, je ne doute pas que vous avez dû surmonter des épreuves harassantes, mais ce n'est rien comparé à ce qui vous attend là. Vous connaissez Fort Boyard ? Vous connaissez le père Fouras ? Eh bien, je vais vous présenter pire que le père Fouras, la mère foireuse.
C'est moi ?
Who else ? À tout de suite pour le quiz entre Eva et Michel Sarron. Quiz qui, évidemment, n'aurait pas d'intérêt s'il ne portait pas aujourd'hui sur la gastronomie.
16h, 18h sur Europe. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Quel merveilleux après-midi nous passons avec le grand chef Michel Sarron que vous retrouvez ce soir sur M6 pour le top départ d'une nouvelle saison de Top Chef, une émission à laquelle j'aurais rêvé de participer. J'avais tout, l'esprit compétitif, la technique en cuisine, le sens du dressage. Je crois au fond qu'il me manquait qu'un seul truc, la connaissance des produits, notamment des produits de la mer. Je m'en suis rendu compte lors de la dernière chronique de Sirou sur la coquille Saint-Jacques.
Quand vous regardez le squelette d'une Saint-Jacques...
Bah déjà, elle a un squelette. Moi, je n'aurais pas dit qu'elle avait un squelette.
Oui, ça s'appelle la coquille.
Ah, voilà. Voilà, moi, j'aurais pu postuler. Bon, je ne l'ai pas fait pour, je dirais, pour. J'aurais été
trop... Non, vous êtes nul en cuisine.
J'aurais été trop fort par rapport aux autres.
Non, mais vous êtes nul, on peut le dire, parce que vous vous moquez de moi depuis le début.
On peut dire que je suis une sacrée bille, Eva, c'est vrai. Michel Sarron, une question justement crétine, mais qui, à mon avis, peut déboucher sur une réponse intelligente. Est-ce qu'on est cuisinier ou est-ce qu'on le devient ? Au sens, est-ce qu'il y a des gens qui ont des prédispositions et d'autres pas ?
Ça fait partie de la culture, de l'éducation. Je ne pense pas qu'on est cuisinier, non.
C'est votre cas. En l'occurrence, vous ne pensiez pas devenir cuisinier
non,
quand vous
tout,
avez
du
débuté.
Non, du tout. Moi, j'ai fait une première, non, deux premières années de médecine d'ailleurs.
Deux premières années. Vous avez tenté sage-femme, me dit-on.
Sage-femme, concours d'infirmière, enfin tout, et on voit où ça a mené. Mais non, je pensais pas un jour que je serais cuisinier. Puis voilà, j'avais une maman qui m'a amené à d'abord parce que c'était une très bonne cuisinière, j'avais un papa gourmand et tout ça fait qu'on a envie de bien manger. Et puis un jour, elle a décidé de transformer la ferme familiale en restaurant, en ferme auberge. Et l'histoire a commencé comme ça. Et quand il a fallu trouver un métier, parce que la société, c'est ça. Quand vous êtes jeune adulte, on vous dit qu'il faut avoir un métier. Ensuite, on peut épouser quelqu'un, faire des enfants, etc. etc. Moi, ça démarrait mal, quoi.
Il s'est passé un truc quand même incroyable avec Top Chef, qui a été une des premières émissions de concours culinaire en France. C'est quand même le statut qu'a eu le métier de cuisinier, qui est devenu, qui était à une époque un métier manuel. Enfin, c'était une branche qui n'était pas forcément les gens...
Très valorisé, en tout
par
cas.
Par exemple, les gens de bonne famille, les bourgeois, pour dire les choses comme elles sont, n'encourageaient pas leurs enfants à faire cuistot. Aujourd'hui, le métier est tellement valorisé, c'est tellement magnifique, on voit le côté artistique, que plein de gens veulent se lancer dans la cuisine.
Oui, alors c'est vrai que la médiatisation a un peu changé le métier. Après, si on regarde dans l'histoire de France, les rois de France avaient quand même des cuisiniers qui avaient un statut particulier.
Tout à fait.
Il n'y avait pas européen à l'époque, c'est tout. La seule différence, c'est ça.
C'est la seule différence, voilà. C'est vrai.
Après, il y a un chef qui a été très très important dans cette médiatisation, c'est Paul Bocuse, quoi, qui a sorti un peu les chefs de leur cuisine et qui en a fait des ambassadeurs. Mais un jour, il s'était posé la question de savoir s'il ne fallait pas les faire revenir dans les cuisines, d'ailleurs.
Oui, parce qu'il s'en éloignait un peu trop.
Mais voilà, donc effectivement. Et après, bon, des émissions comme Top Chef, mais je crois font du bien parce qu'aussi, elles créent des vocations. Il y a beaucoup de jeunes. C'est une émission qui est formidable pour ça, parce qu'elle elle a un rayon d'action très large. C'est des très jeunes aux personnes plus âgées, et puis toutes les catégories socioprofessionnelles. Et chez les très jeunes, oui, ça crée des vocations.
Une émission inspirante. Alors Michel Sarron, vous le savez, l'équipe est sauvage, ce n'est pas qu'une gentille discussion entre amis, c'est aussi une compétition à laquelle l'invité lui-même n'échappe pas. Face à vous, la mère foireuse, Eva Roch. Elle est à l'épreuve du quiz ce que le PSG est au 8e de finale de la Ligue des Champions. Un espoir toujours déçu. Comme vous êtes fair play, je sais que vous allez l'encourager, mais bon, faut pas non plus se faire trop d'illusions vu que le questionnaire du jour va porter sur la gastronomie. Alors vous aurez beau faire semblant d'y croire pour elle.
Forcément, je l'attends vraiment au tournant sur cette épreuve.
Bon, non, dites pas n'importe quoi, elle va se planter comme d'habitude. Voici notre quiz gourmand, c'est un vrai faux sur le restaurant, au menu ou à la carte. Une bonne réponse vaut un point, c'est parti. Eva Roch, le restaurant L'Espadon, à Paris, propose tous les ans un menu réveillon dont le prix est égal à l'année. C'est 2020 € par personne cette année, par exemple. Vrai ou faux ?
Non, c'est faux.
C'est faux ?
Bah oui.
Eh bien, Eva, c'est que je ne vous ai pas emmené au bon endroit. Oui, c'est vrai !
Mais non.
C'est le restaurant gastronomique Du Ritz. Ouais. Cette année, carpaccio de homard, chou-fleur au caviar, Saint-Jacques de plongée, turbo doré, chevreuil poêlé en noisette, eau de vie réserve du Ritz, brie de Meaux à la truffe noire, brie de Meaux à la truffe noire.
Je vais vomir si vous continuez.
Oh là 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 là. Et glace, je ne pense pas, on m'a mis glace de Venezuela, mais je ne pense pas que je pense plutôt que c'était une glace qui vient du Venezuela. N'hésitez pas à y aller cette année, l'année prochaine, ce sera plus cher, Eva.
Ah bah vous m'emmènerez.
Oui, on verra.
C'est ça, je vous trouve un peu chiche quand même.
Oui. Merci,
vous pourriez
Michel
faire
Sarran.
Vous avez une équipe hors normes.
C'est vrai, voilà. Je devrais leur offrir des dîners hors normes. Bon, l'année prochaine, tous au Ritz.
Virginie, on est invité au Ritz l'année prochaine.
Michel Sarran, à Washington, le McDo reprend la forme et le plan de la célèbre Maison Blanche. Si vous voulez manger dans le faux bureau ovale, il faut réserver 3 mois à l'avance. Vrai ou faux ?
Non, je dirais faux.
Faux ! Bonne réponse. Par contre, dans la ville de Roswell, il y a un restaurant McDo en forme d'ovni. Eva Rock, Michel Sarran, vous répondez tous les deux à cette question. À Tokyo, le restaurant Zawo a une particularité. Laquelle ? Tout ce qui est servi vit encore. Comme vous mangez obligatoirement le poisson que vous pêchez vous-même au début du repas, l'addition peut varier de 200 euros à peu près. Ou enfin, le chef cuistot se suicide si le menu vous a pas plu.
Oh mais non, vous êtes bête. Moi je dirais la 1, c'est encore vivant mais dans l'assiette.
Tout ce qui est servi est encore vivant ? Ouais. Vous êtes bien sûr de votre réponse ? Ouais. Oui, ouais. Eh bien c'est faux.
Non.
Alors il en reste 2, d'après vous.
Mais non, mais le chef.
La 2,
oui.
Et oui, donc le point va à Michel Sarran.
Ah, bah comme par hasard.
Tu t'es fait avoir. Et oui, on mange ce qu'on pêche. C'est génial comme concept. Vous arrivez, on vous donne de quoi pêcher, mais on ne relâche pas ce qui a été pris. Le poisson le plus cher vaut 130 euros.
Alors là, moi, je ne suis pas prête de manger ni de payer. Hein, je le dis tout de suite.
Vous, 22h, vous n'êtes pas encore à table.
Ah, bah non, c'est clair. Ouais.
Michel Sarran, Guy de Maupassant, était farouchement opposé à la construction de la Tour Eiffel. Et pourtant, il déjeunait très souvent dans son restaurant. Pourquoi ? Parce que l'une des serveuses était son amante, Marie Bashkirtseff, vrai ou faux ?
Pourquoi pas, oui.
Pourquoi pas ? Et non, c'est faux. En revanche, il y déjeunait bien. Marie Bashkirtseff était bien son amante. Mais quand on lui reprochait cette contradiction de déjeuner dans la Tour Eiffel qu'il détestait, il disait « c'est le seul endroit de la ville où je ne vois pas la Tour Eiffel ». C'était sa justification.
C'est très malin.
Et Baroque,
oui.
Attention, vous pouvez peut-être... égaliser
ou pas.
Dans un restaurant, si vous mettez la fourchette, le couteau et la cuillère dans l'assiette une fois avoir mangé, ça signifie, selon le guide des bonnes manières, que vous avez très mal mangé et que vous ne reviendrez jamais dans cet établissement. Vrai ou faux ?
Mais non, c'est faux, totalement.
C'est faux totalement ?
Bah oui.
C'est faux. Pour exprimer le fait que vous avez mal mangé, il faut mettre les couverts dans l'assiette avec le couteau enchevêtré dans les dents de la fourchette. Vous le saviez ça ?
Alors, je ne savais pas qu'il fallait faire ça, mais je sais... mais si vous mettez, Michel Sarran, si on met les couverts dans l'assiette, c'est qu'on a fini et qu'on est satisfait du service.
Je ne sais pas si on est satisfait, mais en tout cas, on a fini. Quoi.
Voilà, on a fini.
C'est juste qu'on n'est pas un gros dégueulasse et qu'on ne fout pas les couverts tachés à côté sur la nappe blanche.
Après tous ces codes, c'est vrai qu'aujourd'hui,
c'est vraiment Nadine Rothschild qui s'occupe de ça. Mais si vous avez adoré le repas, il faut mettre le couteau et la fourchette parallèles et disposés horizontalement.
Oui, mais alors moi je le fais au restaurant.
Vous faites ça ?
Et je sais pas pourquoi.
Mais vous saviez pas pourquoi ? Mais peut-être qu'on vous l'avait inculqué dans votre jeunesse.
Bah, peut-être.
Voilà, quand vous faisiez le bal des débutantes,
bien
tout
sûr,
ça,
bien sûr. C'est vraiment mon genre.
Effectivement,
ça.
La noblesse niçoise, on la connaît. Qui remporte le quiz ? C'est Michel Sarran qui remporte le quiz gastronomie. Étonnamment, à la surprise générale, il continue de s'échauffer pour le premier épisode de Top Chef de la saison ce soir sur M6. Michel Sarran reste avec nous.
Europe 1.
À suivre, alors que Donald Trump continue de se demander s'il existe vraiment, le réchauffement climatique continue de produire ses effets. Le dernier en date, et nous partirons à Barcelone pour le vérifier, les cigognes ne migrent plus jusqu'en Afrique. Désormais, elles s'arrêtent en Espagne. Alain Sirou, un message à l'attention de Donald Trump.
Connard. Oui. Asshole.
Non, mais restons quand même diplomates, Alain. Les cigognes s'arrêtent désormais en Espagne. On en parle juste après Daft Punk, Digital Love sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Écoutez le monde changer, telle est la devise d'Europe 1 que nous appliquons à la règle, puisqu'en duplex de Barcelone, nous allons maintenant évoquer un nouvel effet inattendu du réchauffement climatique, un effet sur les oiseaux. Je vous le dis d'emblée, mon cœur saigne, car si quelqu'un ici aime les oiseaux, c'est moi. J'ai encore le souvenir d'un pigeon merveilleux. Un pigeon du Mont-Royal, gai et rieur, jusqu'au jour où il a croisé le chemin de notre invité Michel Sarran. Qu'il a sublimé, il l'a sublimé, en le faisant revenir avec un fabuleux jus d'an. Il m'a servi avec les abattis en croquettes et la cuisse en ragoût. Bref, c'est un amoureux des bêtes qui vous le dit, rien ne va plus dans la nature. Bonjour Henri de la Guérie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, vous êtes le correspondant d'Europe 1 sur la péninsule ibérique et vous allez nous parler d'une conséquence du réchauffement climatique, les cigognes ne migrent plus jusqu'en Afrique.
Eh bien non Mathieu, elles s'arrêtent désormais en Espagne. Vous savez, il y a encore quelques années, tels des touristes qui s'en vont aux Canaries ou au Sénégal en hiver, les cigognes fuyaient également les basses températures, elles prenaient la route du Sahel. Le voyage était un peu plus long qu'un vol charter. Il fallait compter à peu près un mois pour rejoindre l'Afrique. Un voyage périlleux, épuisant, mais cette grande migration est donc presque terminée. Selon le travail de l'ONG CO BirdLife, 80% des cigognes blanches qui vivent en France, en Alsace notamment, ou dans l'Europe centrale, s'arrêtent désormais en Espagne. La hausse des températures leur permet de s'épargner ce voyage éprouvant à travers la Méditerranée et le désert. Vous savez, cet après-midi, il fait par exemple près de 25 degrés en Andalousie. Et pour arriver à ces conclusions, l'ONG a suivi les déplacements de 79 cigognes pendant 7 ans.
Mais alors là, le réchauffement climatique a quelque chose de bon, finalement.
Oui, oui et non, parce qu'en Espagne, l'alimentation de ces cigognes laisse à désirer. Elles se nourrissent dans des décharges. Elles avalent donc sans le vouloir du plastique et certaines d'entre elles s'intoxiquent. Celles qui s'installent dans des marais ou des rizières en Espagne ou dans le sud de la France, près de Narbonne notamment, mangent des écrevisses américaines. C'est une espèce qui prolifère dans le sud de l'Europe. Résultat, les cigognes se retrouvent avec le bec orange. C'est pas très très grave, mais bon, en tout cas, c'est le même principe que pour le flamand, vous le savez, qui devient rose en mangeant des crustacés.
En tout cas, les cigognes reviennent plus vite chez nous ensuite.
Oui, et c'est en ce moment qu'elles repartent donc vers la France ou ailleurs. Elles repartent très vite, deux fois plus vite au retour qu'à l'aller, savez-vous. Pourquoi, Mathieu ?
Le Gulf Stream.
Non, mais oui, c'est les vents, non ? C'est pas les vents ?
Non, c'est qu'elles sont motivées, très motivées, parce qu'elles rentrent pour se reproduire. Voilà, ça motive.
Ah, mais donc, est-ce que ça les fait aller deux fois plus vite de savoir qu'elles vont se
Exactement.
Reproduire ?
Exactement.
Bah, comme vous, Eva, quand vous rentrez après l'émission, par exemple, et que vous savez, les soirs, vous savez, voilà, quand vous savez qu'il faut. Voilà, vous allez deux fois plus vite, j'ai calculé. Merci beaucoup, Henri de la Grille, pour cet éclairage animalier qui s'est prolongé en studio de manière un peu fortuite.
Grivoise.
Grivoise. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Europe 1.
L'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes continue avec notre invité d'honneur Michel Saran que vous retrouvez ce soir dans le jury de Top Chef qui redémarre sur M6. Ici aussi, ça va éliminer sec. Tiens, Eva sonne le clairon pour appeler deux nouveaux compétiteurs. Au programme, une belle histoire en Syrie et les dernières innovations assez dingues de la gastronomie. Les journalistes sortants vont saluer les nouveaux arrivants. Mais en cette période de virus, on va éviter de se serrer la main. Un drame est vite arrivé, comme Michel Saran l'a constaté lors de l'enregistrement de l'ultime épisode de Top Chef. En même temps, comme disait Michel Blanc à notre micro...
C'est la saison, hein. Si on n'a pas une gastro maintenant, on passe à côté d'un grand truc, hein. C'est comme les boules sur le sapin, mais...
C'est pas pour Michel.
Sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Ils sont quatre, mais il n'y a qu'une seule couronne. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'affrontent au service de votre culture G. Un seul décrochera la couronne de chroniqueur du jour, sous l'œil d'un invité arbitre extrêmement intimidant aujourd'hui, le chef Michel Saran, qui a démarré l'émission positif.
C'est plein de promesses, ça.
Avant de modérer son enthousiasme.
Ça patoche dans la choucroute, là.
Une deuxième heure se profile pour nos champions. On partira en Syrie, on découvrira les dernières trouvailles parfois complètement farfelues des pionniers de la gastronomie. Eva nous dira quoi regarder à la télé ce soir. Et bien sûr, Olivier Pouls et Michel Saran tenteront de répondre à la question qu'on se pose tous. Comment manger mieux ? Eva, une idée ?
Bah, viser la bouche.
Pas bête.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous êtes au cœur de l'équipe est sauvage et me revient en mémoire une citation. Je te sens qui te dérobe à moi, frétillant d'envie mais terrorisé à la fois. L'amour au fond, c'est peut-être ça, une tentative de fuite qui n'arrivera pas.
Ah, Oscar Wilde.
Non, Maïté, décapitant une anguille. Ce soir, Top Chef est de retour sur M6 pour une 11e saison avec notre invité, le chef étoilé Michel Saran. Gros niveau en vue cette saison. Eva, vous allez répondre tous les deux. Eva, vous avez vu déjà le premier épisode ?
Mais ça m'a énervé. Vous savez ce que fait M6 à chaque fois ? Parce que donc, j'ai la chance de pouvoir voir les épisodes avant, oui. Mais il me coupe la fin de l'épisode.
Bah, encore heureux, sinon vous pourriez
qu'est-ce que je vais faire ?
Révéler aux auditeurs.
Mais bien sûr que non, c'est mon genre ça.
Oui, bah, vous pourriez gaffer. Est-ce que le niveau est élevé dans cette parce que j'ai l'impression que de saison en saison, ça devient de plus en plus invraisemblable le niveau des plats.
On en parle hors micro avec Michel Saint. Moi, j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'à chaque fois je dis le niveau, j'ai jamais vu ça. Mais franchement, c'est incroyable. Il y a des chefs qui sont déjà étoilés. Enfin, il y a vraiment un niveau incroyable.
Depuis que nous y sommes avec Philippe, Hélène, non, mais moi, je ne suis pas surpris. Tous les ans, effectivement, il y a un très bon niveau. Est-ce que le niveau est meilleur d'année en année ? À entendre Alain Siroux, non. Mais c'est sûr que ce qui a changé, c'est tous les ans, il y a un fil directeur. Cette année, c'est l'audace et un peu l'éco-responsabilité aussi. L'année passée, c'était autre chose, avec des chefs intervenants qui sont d'un très haut niveau. Donc la barre est à chaque fois placée très haute. Moi, je les trouve tous les ans très bons.
Il y en a que vous embaucheriez dans votre resto ?
Bah non, parce que
ils veulent créer leur resto.
Mais oui, après ils sont voilà, ils sont dans leur histoire et ils ont pas besoin de moi et moi je préfère me passer d'eux. Non, et garder de très bonnes relations avec eux parce que c'est ce que je fais. J'ai même il y a des candidats que je suis particulièrement, que je peux aider même dans leur ouverture, dans leur développement, et c'est très bien. Mais ils ont plus besoin de moi et je peux pas les embaucher comme commis chez moi.
C'est plus possible. On continue de parler du retour de Top Chef, mais l'équipée sauvage, comme d'ailleurs la vie, est une jungle, une compétition. Deux nouveaux prétendants à la couronne de chroniqueurs du jour nous ont rejoints, à commencer par celui qu'on peut légitimement appeler, sachant qu'il m'a connu stagiaire et que j'ai des cheveux blancs, le doyen. Journaliste émérite, ancien correspondant d'Europe 1 aux États-Unis et du temps de sa splendeur, Jean-Philippe Ballas se prépare déjà à son prochain métier, papy. Ses petits-enfants.
Oh non, c'est horrible.
Oui, ses petits-enfants adoreront l'écouter, leur raconter des histoires.
Ah oui, puis j'avais le 45 tours de Mongo Jerry.
C'est vrai.
Bah ouais.
Tu vois, Jean-Philippe, t'es vraiment le doyen de cette radio.
Et je t'emmerde.
Alors, Jean-Philippe Ballas, quelle belle histoire, puisque c'est maintenant votre spécialité, quelle belle histoire allez-vous nous raconter aujourd'hui ?
Je vais vous raconter une vidéo qui est en train de faire le tour du monde, qui vient de Syrie. C'est un père et sa fille qui éclatent de rire, littéralement, pendant un bombardement. Oui, c'est une petite leçon de vie, vous verrez.
À ses côtés, Michel Sarran, un être unique. Expert nouvelle technologie d'Europe 1, l'impression de perfection qu'il dégage nous fait envisager l'hypothèse qu'il soit lui-même un produit des nouvelles technologies. Une sorte de surhomme bionique. Comme dirait son rival jaloux chez lui,
chaque pièce est unique.
Ah oui, vous pouvez toucher. Bonjour Anissa Elbida.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Avec quel sujet choc allez-vous humilier Jean-Philippe Ballas et subjuguer notre invité Michel Sarran?
Je vais simplement essayer de vous donner quelques petites astuces technologiques pour faire manger de la viande, enfin manger des légumes plutôt, à ceux qui préfèrent la viande et les frites. Et vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont assez perverses.
Qu'est-ce que c'est encore que ces innovations?
En fait, ceci dit, chef, pour moi, les frites, ce sont des légumes quand même.
Oui.
Ouais. Mais c'est un point de vue.
C'est un point de vue de Michel Sarran. Alors,
légumes verts, on va dire.
Rigolade en Syrie ou le secret de la dinde qui a le goût de carotte? Quel sujet l'emportera? Réponse juste avant 18h. En attendant, je me tourne vers notre invité. Qui est pour vous Michel Sarran? On est allé vous poser la question. Voici non pas un micro-trottoir, toujours monté pour flatter l'invité. Voici notre micro-trottrache. C'est pareil, sauf qu'on n'a pas enlevé les vacheries.
Michel Sarran.
Il est dans l'émission Top Chef. Non, il est. Moi, je le trouve gentil. Hein.
Il est pas mal, mal rasé. Enfin, moi, je préfère quand les gens sont rasés.
Oui, moi, je préfère manger que regarder des gens cuisiner.
Déjà, c'est la cuisine du terroir, de la cuisine de sa région. Je pense que c'est des cassoulets.
Il a un petit accent du sud-ouest. Et je vais. Non, non, l'eau. Si, et je te baisse. Voilà, mais je ne veux pas dire son ami Philippe, et je te baisse.
Oui, Michel Sarran. Je vois qui c'est.
Il a des lunettes, il est un peu petit.
Je zappe toute la journée, je tombe sur lui. Des fois, je regarde, des fois, je zappe encore.
Oui, Michel Sarran, on l'aime bien parce qu'il est sympa.
L'air, c'était. Il était bleu.
Guillaume Gomez et Michel Sarran, ils se disputent l'appellation de chocolatine ou pas en chocolat.
Je le trouve drôle, je l'aime bien. Enfin, ça va, il est strict hein, aussi. Hein.
Alors, plusieurs informations de micro-trottoir. Déjà, l'existence d'un collègue à vous qui s'appelle Philippe Echtebèze. Un nom pas simple pour se lancer dans la restauration. Et puis, cette question, ce débat qu'il nous faut enfin trancher sur Europe 1, car on n'a pas peur de traiter les questions de fond. Michel Sarran, doit-on dire un pain au chocolat ou une chocolatine?
Je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. C'est chocolatine.
C'est chocolatine.
Voilà.
Un point, c'est tout. Point final de la discussion.
Désolé, monsieur Gomez.
Top Chef reprend ce soir sur M6. Michel Sarran est notre invité jusqu'à 18h. Vous vous souvenez de ce très beau film de Roberto Benigni, La vie est belle? Ou pour épargner son fils des horreurs dans le camp de concentration, un père lui faisait croire que c'était un jeu. Eh bien, Jean-Philippe Ballas nous raconte une histoire qui m'a fait penser à ce film. Ça se passe en Syrie, pays meurtri, où l'on tente de survivre à la guerre, à Bachar al-Assad et aux reprises de la Reine des Neiges. Pauvre Jean.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe sauvage.
Mathieu Noël.
Michel Sarran est notre équipier sauvage du jour. On vous retrouve ce soir, Michel, sur M6 pour le premier épisode d'une nouvelle saison de Top Chef. Une compétition terrible, mais pas aussi terrible que la nôtre. Ici, pour décrocher la prestigieuse couronne de chroniqueur du jour, nos journalistes sont prêts à tout, même à s'humilier. Notre troisième concurrent du jour, Jean-Philippe Ballas, qui la dernière fois a tenté de prendre l'accent italien, en sait quelque chose,
non.
Sachant que son accent évoquait plus le Mexique que l'Italie.
C'est mort, on ne peut pas le récupérer.
Jean-Philippe équipe, aujourd'hui, il va vous falloir rebondir.
Je suis tellement désolé.
Je ne sais pas d'où venait cet accent.
Moi non plus.
Jean-Philippe, il faut rebondir aujourd'hui. Avec un beau sujet, une belle histoire peut-être dont vous avez le secret.
Bon, on va se mettre dans l'ambiance.
Et alors, quand je dis de
vous entendez cette petite voix, c'est celle d'une fillette de 4 ans. Et ça se passe quelque part en Syrie. Alors elle s'appelle Salwa et on la voit debout sur un canapé dans les bras de son père. Son père qui filme la scène avec son téléphone portable. Alors ils ont l'air très complices comme ça, ils chuchotent un peu comme s'ils attendaient quelque chose. Et ce quelque chose, ben, il va arriver, c'est une explosion, c'est le bruit d'une bombe. Alors assez sourd, vous allez l'entendre, c'est bref, parce qu'il y a un bombardement à l'extérieur, c'est la guerre, on est en Syrie. Et vous allez surtout entendre ce qui suit dans la foulée, la réaction totalement inattendue de la petite fille. Voilà, un gros boom et un éclat de rire. Elle est littéralement hilare, la petite Salwa, sur le canapé. Et là, forcément, les amis, on a du mal à comprendre. Ouais. Je vais tout vous expliquer. Ça vient du papa. Il s'appelle Abdallah. Et étant donné que sa fille, elle a 4 ans, je vous le rappelle, étant donné que sa fille n'a connu que la guerre jusque-là, eh ben, elle a décidé d'en faire une comédie, de lui faire croire que tout ce qui se passe dehors, les bombes, les explosions, tout ça, c'est un peu comme une pièce de théâtre. C'est une comédie, c'est pour de faux et qu'il faut en rire absolument à chaque fois. Il fait ça, évidemment, pour la protéger dès qu'une bombe explose. Alors, tout ce que je vous raconte est vrai, hein, absolument vrai. Cette vidéo, le papa l'avait envoyée il y a quelques jours à un ami turc, un journaliste, qui a été tellement ému en la découvrant qu'il lui a demandé s'il pouvait la partager sur les réseaux sociaux. Le père a dit OK. Alors, elle est devenue virale en 24 heures. Elle fait le tour du monde. Elle a été vue des millions de fois, hein, au moment où je vous parle. Notamment parce que, et vous l'avez dit, Mathieu, elle rappelle un film, oui. Cette vidéo. Elle rappelle La vie est belle de Roberto Benigni. Alors, c'était un père qui essayait de faire croire à son fils qu'un camp de concentration, finalement, c'est un peu comme une colonie de vacances, comme un jeu de piste, ouais. Où on pouvait gagner un char d'assaut, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Là, on peut dire que, bah, d'une certaine manière, aujourd'hui en Syrie, la fiction a rejoint la réalité. Et personnellement, je trouve qu'elle est importante, cette vidéo, pas seulement parce qu'elle est émouvante, tout simplement parce que d'abord, on parle de la Syrie. Ça fait un moment qu'on n'en parle plus de
ça,
la guerre en
plus,
Syrie.
Hein, oui.
Elle dure toujours. Et surtout parce que ce genre de vidéo, ça remet ce conflit un peu à hauteur d'hommes et d'enfants, ce qu'on a tendance parfois à imaginer quand on voit les explosions, les fumées, on a du mal à se dire qu'il y a des gens autour et que forcément, ben on s'identifie à ce père de famille qu'on trouve assez héroïque. Alors, il a parlé à quelques journalistes depuis 24 heures. Avec sa femme et sa fille, ils sont toujours en vie. Ils passent de village en village et on leur souhaite beaucoup de courage, évidemment.
Merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. Votre chronique mérite-t-elle 3 étoiles, 2, 1 étoile ou seulement le bip gourmand, car vous avez au moins ce mérite de ne pas être cher. La réponse tombera juste avant 18h.
Europe 1.
Qu'est-ce qu'on va regarder à la télé ce soir, à l'outrecuidance de se demander Eva? On va regarder Top Chef, Michel Sarran est notre invité.
Je vais voir, je sais pas, je réfléchis encore, me donner quelques secondes.
Alors, pourtant il y a des choses à apprendre.
Les conseils télé d'Eva, juste après Suzanne. Il est où le SAV sur Europe 1?
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Le chef étoilé Michel Sarran passe l'après-midi sur Europe 1. Top Chef reprend ce soir sur M6, une émission dont la fibre compétitive n'est pas sans rappeler celle de l'équipe est sauvage. Même énergie, même obsession de l'excellence et surtout, même précision culinaire, comme Eva Rock l'avait démontré devant un autre chef étoilé, Olivier Rollinger.
Demain, je fais un crumble framboise.
Oui, mais c'est pas la saison.
Bon, Michel Sarran, est-ce qu'on peut sauver Eva Rock en cuisine ou pas? Parce que même quand elle manifeste de la bonne volonté, elle n'y arrive pas. Quoi. Elle se plante, elle nous sort de la framboise.
Genre. C'était une blague, mais vous êtes bête.
Je pense qu'il faut absolument qu'elle suive la saison de Top Chef, début à la fin. Comme ça, elle pourra nous sortir un magnifique plat d'écrevisses aux framboises.
Toute saison.
Pour Noël.
Sérieusement, il faut dire que quand on regarde Top Chef, on apprend plein de choses. C'est vrai.
Encore faut-il noter. Parce que sinon, franchement, ça va tellement
vite. Vous les retrouvez sur le site d'M6 qui fait un travail remarquable sur le numérique avec les recettes, avec les tours de main, etc.
D'accord.
Mais c'est aussi un objectif de l'émission d'être pédagogique à l'égard des téléspectateurs.
Bah oui, parce que si on était trop dans le professionnel, je crois qu'on la saurait. Donc il y a la beauté du geste, c'est vrai que ça intrigue et ça plaît, c'est spectaculaire. Mais il y a aussi un rôle pédagogique. Et la cuisine, c'est aussi ça, c'est aussi des petites choses très simples quelquefois. Je vous promets, Eva, qui peuvent vous faire passer pour la révélation.
Vous n'arrivez même pas à dire.
On peut bluffer, quoi.
Ouais. Non, mais c'est vrai, on peut faire. Il y a des petites choses qui sont assez simples à réaliser, qu'on peut apprendre en Top Chef. C'est bien, hein, c'est sûr.
Quel plat, est-ce que vous auriez là un plat à nous conseiller pour des brels comme moi, parce qu'Eva, en fait, c'est cuisiner, mais pour quelqu'un qui vraiment a du mal en cuisine. Est-ce qu'il y a un plat qui peut faire, qui déjà, peut en jeter un peu?
Déjà, écoutez, moi, je vous conseillerais de continuer dans ce que vous faites, c'est d'aller dans les restaurants étoilés. parce qu'on a besoin de gens comme vous.
Qui ne connaissent pas, qui ne savent pas faire un œuf à la coque.
Non, on a besoin de remplir nos salles et c'est bien d'avoir... voilà. Après, il y a des recettes. Mais des recettes, on peut parler des œufs. Il y a des recettes super à faire avec les œufs, avec les pâtes. Il y a des choses... La cuisine, ce n'est pas forcément du temps, de l'ultra-technique. Il y a des choses à savoir, mais on peut faire des plats très bons. Je me souviens, il y a, pas cette saison, mais la saison d'avant, Samuel avait fait un œuf mimosa wasabi qui était absolument bluffant et qui était très, très beau en plus, visuellement, qui n'était pas ultra compliqué à faire. Je fais une soupe de foie gras à l'huître de Belon, ce n'est pas hyper compliqué à faire et pourtant, a priori, ça plaît pas mal. Donc,
Combien vous connaissez de recettes, Michel Saran? Vous avez une idée ou pas?
Non. J'ai pas d'idée. Et puis les recettes, je les retiens pas par cœur parce que j'ai pas envie de m'encombrer le disque dur avec ça. Pour moi, la cuisine, c'est dans un moyen d'expression. Je raconte des choses. Quand j'ai besoin d'une technique particulière, je peux aller la chercher. C'est très facile. Si vous me demandez demain de faire un feuilletage comme ça, bon, il faut que je me retravaille un peu les proportions. Les ingrédients, je les connais, mais les proportions. Alors que par contre, les candidats de Top Chef, eux, ils doivent le sortir immédiatement. Donc il faut qu'ils aient bûcher le dossier
en amont.
Faut pas oublier, c'est un concours.
Alors, on va encombrer un peu nos disques durs. Nos disques durs sont très encombrés. Le saviez-vous? Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou sur les plateformes auxquelles on est abonné. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique 17 minutes de gagner.
Oui, alors, sauf que Michel Saran, il n'a pas le temps de regarder les écrans.
C'est vrai.
Mais bon, non, sérieusement, ce soir, évidemment, on va regarder Top Chef sur M6. Émission à regarder, je vous le dis tout de suite, dès que vous avez terminé votre dîner, parce que sinon, c'est votre frigo et votre garde-manger qui ne vont pas résister, parce qu'il ne faut jamais regarder Top Chef avec le ventre vide. Mais je voulais vous conseiller aussi un autre programme qui est à regarder absolument, mais alors là, quand vous voulez, puisque c'est une série documentaire en 4 épisodes qui est disponible sur YouTube ou sur la plateforme de France Télévisions qui s'appelle Slash TV. Et le documentaire en question s'appelle Invisible, les travailleurs du clic. Voilà pour le titre. Documentaire édifiant, vous allez comprendre. Le premier épisode est consacré aux conditions de travail des livreurs Uber Eats. Michel Saran, je pense que vous n'êtes pas concerné avec votre restaurant 2 étoiles qui est situé à Toulouse, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus appel à ces livreurs. On n'a pas attendu un documentaire pour savoir que ces livreurs étaient mal payés. Mais c'est un euphémisme. Moi, j'ai découvert notamment le système de prime qui est proposé par Uber Eats, environ 40 euros à gagner en plus, sous certaines conditions écoutées.
Il faut faire 15 livraisons pour avoir un bonus de 40 euros. En un temps record, même en grillant pas mal de feux rouges, pas mal de chauffeurs, même les vélos qui grillent les feux rouges, n'arrivent pas à faire le bonus. Le bonus de 15 sur 15 est devenu pratiquement mission impossible.
Alors c'est un des témoignages édifiants que... Exactement, c'est un pouce au crime. Mais vraiment, c'est ce que disent les livreurs qui sont interviewés. Ils sont sous-payés, ils sont mal assurés, ils sont épuisés. Des livreurs qui souffrent. Et alors, vous allez découvrir d'autres cas aussi à Madagascar. Des femmes souffrent. Alors elles sont chargées d'effectuer sur des plateformes numériques aussi des tâches répétitives, comme par exemple répondre à des commentaires de clients. Alors pour des grandes sociétés comme Disneyland Paris, c'est un des exemples qui est cité. Quelques centimes donc contre des missions qui sont longues, qui sont fastidieuses. Et puis j'ai surtout découvert avec effroi, mais vraiment je pèse mes mots, le quotidien des modérateurs sur Facebook. C'est absolument horrible. Ce sont des gens qui sont chargés de débarrasser le réseau social.
Qui lisent des horreurs toute
la journée. Des commentaires haineux. Donc bon, ça on se dit, ok, des commentaires haineux. Mais c'est pas que ça. C'est des vidéos de viol, des vidéos de maltraitance, de décapitation par des soldats de Daesh. J'arrête là l'énumération, franchement, mais ça fait froid dans le dos. Il faut entendre ces modérateurs qui sont en dépression, qui sont traumatisés vraiment par ces images qu'ils traitent toute la journée. Il y a une action d'ailleurs qui est en justice, en cours en Irlande contre Facebook, pour qu'on reconnaisse les difficultés qu'ont ces personnes et qui ont besoin vraiment d'aide psychologique pour mener à bien leur boulot. Ces anciens salariés, normalement, n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas le droit de se montrer à une caméra parce qu'ils ont signé des contrats de confidentialité. Il y en a un qui accepte de témoigner à visage découvert dans cet excellent documentaire qui pose deux questions, à la fois celle de notre rapport au travail et puis celle de nos rapports au numérique et à nos usages de ces applications au quotidien. C'est un formidable travail que vous pouvez voir grâce à un clic, malheureusement. Ça s'appelle Invisible et Travailleurs du clic. C'est sur YouTube et Slash TV.
Merci Eva. 17 minutes de gagner, une fois de plus, grâce à vous. Europe 1. Imaginez, Michel Saran, une dinde qui aurait le goût de carotte. Un poulet qui aurait le goût de courgette.
Je sais, c'est de merde.
Ne soyez pas passéiste, Michel. C'est peut-être l'avenir. Des viandes modifiées pour avoir le goût de légumes. Anis Mbida, notre expert innovation, nous entraîne aux confins de la création culinaire.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans trop nous prendre au sérieux, la petite bande de l'équipe est sauvage vous accueille chaque après-midi. Oh, yeah. avec les musiques les plus hype du moment et un invité d'honneur chargé de départager les meilleurs journalistes d'Europe 1. Aujourd'hui, le chef étoilé Michel Sarran, qui, c'est plus fort que lui, ne peut pas s'empêcher de coacher nos journalistes comme vos poulains dans Top Chef, Michel. Là, il a pris sous son aile Anissé Mbida.
Cette épreuve, c'est la tienne. Tu dois la gagner.
Anissé, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Michel compte sur vous. Je sens que vous allez en commettre une d'erreur. Imaginez que Michel Sarran va un jour accepter de bouffer de la dinde goût carotte. Oui, ça m'en dit, c'est mal parti, mon grand.
Oui, parce que vous connaissez la viande qui est fabriquée à base de légumes, hein, la viande qui a un goût de viande, la viande végane, mais qui est fabriquée à base de plantes.
Donc, qui a un goût de viande.
Oui. Non, je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas.
Eh bien, il ne
découvrez,
veut pas
découvrez maintenant l'inverse, c'est-à-dire des légumes qui ont un goût de légumes, mais qui sont fabriqués exclusivement à base de viande, notamment légume qui s'appelle la carnirote. Donc c'est une
rien
carotte.
Que le nom est dégueulasse.
Donc c'est une carotte et en plus elle ressemble à une carotte.
Sur
europe1.fr vous pouvez voir cette image. Effectivement ça ressemble à une carotte.
C'est un goût de carotte, mais c'est fabriqué entièrement avec de la dinde.
Mais enfin, alors attendez, excusez-moi, mais voilà, la question est quel est l'intérêt là ? On comprend pas. Dans l'autre sens, on comprend.
Officiellement,
c'est une quenelle avec du persil dans le.
Derrière, on peut le dire.
C'est pas moi qui l'ai dit.
Oui, mais je suis là pour compléter vos phrases, Michel.
Alors, l'intérêt officiellement, c'est pour ceux, je cite, qui ne veulent pas être complices du massacre des légumes innocents. Donc, vous avez compris l'idée. Hein. L'idée, c'est pour se moquer de l'engouement qu'il y a actuellement pour la viande végane, cette viande justement à base de plantes, et donc de prendre le contre-pied de cette mode et de dire, bah voilà, si les gens n'aiment pas les légumes, c'est aussi parce que justement la viande est plus goûtue et beaucoup plus goûteuse.
J'avais pas compris que c'était une blague.
Et puis, c'est toujours pour les papilles. Mais c'est très sérieux, c'est vendu. En fait, c'est un fabricant de hamburgers qui fait de la viande, quoi, et qui va proposer ça aussi, mais c'est avant tout pour se marrer.
Oh, ça, je le veux, c'est génial. La carnirote.
Alors, ils donnent la recette, hein, ils expliquent comment on la fabrique. Hein.
On peut le faire soi-même.
Un filet de dinde.
Bah, tiens, Eva, nouvelle défaite. Nouvelle défaite, oui, ça aboutira à une défaite. Mais nouvelle.
Mais je refuse de faire
tous vos
truc
défis
pareil,
pour vous. Alors, c'est une technique, mais il y en a d'autres.
Oui, alors il y a une autre technique, ça c'est notamment pour les enfants qui ne veulent pas manger de légumes. C'est une cuillère qui transforme les goûts de légumes en goûts de bonbons ou de Nutella. C'est-à-dire que typiquement, on prend une cuillère de quinoa et vous avez l'impression d'avaler une cuillère de Nutella. Vous voulez manger des haricots verts et c'est un goût de l'éclair au chocolat.
Mais comment ? Mais c'est pas possible.
Alors, c'est des chercheurs de l'université de Singapour qui l'ont mise au point. Au départ, ils avaient fabriqué des baguettes et des baguettes avec des petites.
Après le passage du coronavirus ?
Bon, c'est à Singapour, c'est un peu plus loin. Et donc, l'idée, c'est de stimuler les papilles particulières pour donner un goût de salé. Ils ont fait des baguettes qui donnaient un goût de salé. C'est notamment très pratique pour tous ceux qui sont obligés de suivre un régime sans sel. Et ils ont amélioré leur technique avec une cuillère qui, elle, est capable de donner la sensation de sucré, la sensation de Nutella, justement. Et donc, l'idée, c'est quand on mange des légumes, on a cette
le doyen
sensation de sucré
qui arrive. Pas du tout.
Non, ça me fait rêver quand même du quinoa qui a le goût de Nutella.
Mais c'est plus on est, programme. Quoi.
On est en train de le vivre en direct. Là, vous pensez que vous écoutez une chronique d'Anissé Mbida. En fait, vous écoutez n'importe quoi. C'est pareil, ça marche.
Non, mais imaginez pour un enfant qui n'arrive pas à manger des légumes, vous donnez cette cuillère.
Non, Anissé,
mais
non.
C'est hyper pervers parce qu'il aura. Oui, oh, il est vachement bon ton quinoa.
Voilà, et après, quand il sera chez un copain, on lui fera bouffer du quinoa. Il dira oui, du quinoa. Puis il goûtera le vrai quinoa. Voilà. Il dira non, c'est dégueulasse. Ok, alors il faut déjà mettre la cuillère dans sa bouche. J'en connais qui refusent d'avaler tout ce qui est vert, moi. Hein,
oui, bah, tous les gamins qui mangent avec les yeux, qui font le tri dès que c'est vert, ils le mettent de côté.
Alors, comment on fait ?
Là, il y a une technique, c'est une start-up lyonnaise qui a inventé ça. Je trouve ça assez génial. Ce sont des nuggets, des saucisses ou bien des boulettes, mais qui sont faites uniquement à base de plantes
ça,
et de produits
pour les
sains,
enfants, pourquoi pas.
Exclusivement bio. Donc en fait, on prend des produits sains, on prend des produits bio et on les maquille en junk food pour les faire passer aux enfants. Et justement, ils commencent à travailler maintenant avec des cantines scolaires pour inciter les enfants à manger dans les cantines scolaires.
Pour moi, c'est n'importe quoi. Quand
non,
même,
ça peut être une solution de secours, mais pas l'instaurer dans des cantines. Sinon, après, vous pervertissez l'esprit des enfants. C'est-à-dire, vous leur faites croire que ce qui est bon, c'est la junk food, enfin, ce qui a la forme de nuggets. Quoi.
Mais il est là le problème. En fait, c'est que on est obligé de maquiller, de camoufler les légumes pour les faire manger aux enfants.
Non,
moi, je me pose la question. Justement,
c'est pas vrai.
Est-ce qu'il n'y a pas une technique pour que justement, on ait envie de manger des légumes et qu'on ne soit pas obligé de les trafiquer pour les faire ressembler à autre chose ?
Il faut bien les cuisiner.
Tout simplement.
Tout simplement. Et je vous assure, parce qu'on parle des enfants, mais
oui,
j'ai aussi les réflexions dans mon restaurant. J'aimais pas les artichauts, je me suis régalé. Ou j'aimais pas les navets, je me suis régalé. Donc après, il y a une façon de les cuisiner. C'est qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est qu'on a perdu l'acte culinaire. On ne cuisine plus à la maison. Donc c'est juste, voilà, soit on achète des produits déjà fabriqués, préfabriqués, et qui ne sont pas terribles. Et si on commence à acheter des nuggets de je ne sais pas trop quoi, qui ont goût Nutella, qui sont faits avec des quinoa, je ne sais pas trop quoi, c'est foutu. Mais d'abord, c'est fédérateur et c'est rassembleur dans une cuisine. Je trouve que d'avoir perdu cet acte et ce geste culinaire où on est ensemble, on partage, ben ça fait des dégâts. Et je vous assure que faire manger des légumes à des enfants et à des adultes, c'est tout à fait faisable. Et je crois qu'il ne faut pas les transformer plus que ça. Et pas s'amuser à faire de la mutation génétique. C'est n'importe quoi. Là, vous me racontez n'importe quoi. Je suis désolé.
Je me souviens d'un chef, justement, qui a essayé de dégoûter les enfants des nuggets et qui leur a montré comment ils étaient faits. Ouais. La carcasse dont on arrache, qu'on broie, etc. Les enfants lui disaient ah, 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 ah. Et quand ils ont vu la nuggets terminée à la fin, ils sont c'est terrible comme
bien sûr.
Il était dégoûté parce que justement, c'était complètement contre-productif ce qu'il avait essayé de faire.
En tout cas, on remercie Anis Mbida. Votre chronique mérite-t-elle les 3 points ? La réponse tombera juste avant 18h.
Europe 1.
Un homme s'échauffe en coulisses. Plus qu'un homme, un phénomène biologico-culinaire. Les médecins qui le disséqueront un jour, alors qu'il se sera effondré tête la première dans son ultime assiette de lièvre à la royale, découvriront qu'il était doté, comme les vaches, d'un double estomac. Olivier Pouls, notre expert gastronomique, arrive pour votre recette de dernière minute. Un délice in extremis risqué qui va tenter le mariage du Sud-Ouest et de la Belgique. Visiblement, il est content de lui. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
L'équipée sauvage entre dans sa dernière ligne droite. Les chevaux sentent l'écurie. La mère foireuse en tête.
J'ai la goutte au nez comme les vieilles.
Heureusement, notre invité du jour est l'énergique Michel Sarran, chef doublement étoilé à Toulouse et membre incontournable du jury dans l'émission Top Chef, dont une nouvelle saison, la 11e, démarre ce soir sur M6 avec Eva, un nouveau chef.
Et oui, Paul Perret qui vous rejoint, Michel Sarran, aux côtés de Philippe Etchebest et Hélène Darroze. C'est qui Paul Perret, pour expliquer à nos auditeurs?
Paul Perret, c'est un chef originaire de Perpignan qui est à Shanghai, qui a un restaurant complètement... unique, très conceptuel, qui s'appelle Ultraviolet, où il sert 10 couverts, où chaque plat, finalement, a une enveloppe, on va dire, sensorielle. Enfin, même au niveau de la décoration de la salle, tout change sur chaque plat. Tout est conçu et c'est assez unique, exceptionnel. Et c'est un chef qui est complètement perché. Et ça a été un bonheur de l'accueillir avec nous. En plus, il s'est... très vite fondu dans le moule, hein. Je sais pas, je crois que vous
oui,
avez
oui,
vu.
Oui, il est très bien intégré.
Très bien. Ouais, ouais. Et puis il apporte une vision différente dans l'émission, parce que nous, on est finalement assez sobre, assez sage dans notre cuisine. Et lui, même quand il s'habille, c'est différent, quoi.
Et oui, il a une casquette.
J'ai hâte de voir ça.
Chef 3 étoiles.
Ouais. Qui avait été sacré meilleur restaurant du monde.
Alors Michel Sarran, vous avez votre restaurant à Toulouse, bien sûr, doublement étoilé, mais vous donnez aussi des conseils à plusieurs établissements, la brasserie du Stade Toulousain, le restaurant de la Fédération Nationale des Travaux Publics à Paris, mais aussi pour les voitures bars du TGV. Est-ce qu'on peut bien manger dans le train? C'est possible, ça?
Je m'y emploie. Alors, pour la brasserie du Stade Toulousain, ça c'était... mais j'ai compris que vous avez des références un peu dépassées.
Bah c'était il y a quelques années.
Non, aujourd'hui, j'ai un restaurant, notre restaurant qui est Mabiche sur le Toit à Toulouse, qui est un rooftop sur les Galeries Lafayette.
Sympathique.
Ensuite, effectivement, il y a la FNTP, la Fédération Nationale des Travaux Publics à Paris, et à Toulouse, la salle à manger du président d'Airbus Industries. Et je m'occupe aussi, je participe à la carte du TGV.
Il doit y avoir des contraintes incroyables.
C'est très très contraignant.
Mais
et c'est vrai que lorsque j'ai accepté, je ne savais pas à quoi je m'exposais. Mmh. Une chose est sûre, on a amélioré de 5 points la satisfaction des voyageurs. Bon, ça fait plaisir.
Oui, déjà, au moins, mission accomplie, quoi.
Partiellement, il y a encore du boulot, mais on s'y emploie.
Juste un mot du guide Michelin. Le 17 janvier, le Michelin décernait ses étoiles. Vous avez conservé vos 2 étoiles, si je ne m'abuse. C'est toujours... Ouais. Qu'est-ce qui se passe les jours d'avant? Déjà, est-ce qu'on est prévenu en tant que grand chef de savoir si on les conserve, si on en a une de plus, une de moins, ou c'est la surprise vraiment le jour J?
Non, on est prévenu lorsqu'on perd une étoile, on est prévenu dans le week-end.
D'accord. Voilà.
Bon, donc si on n'a pas d'appel le samedi, le dimanche, c'est plutôt bon signe. Mais bon, en tout cas, c'est extrêmement stressant.
Les jours.
Mais bien sûr. ça reste le guide qui, dans la profession, fait foi. Quoi. C'est le guide rouge, ça reste le guide rouge.
Et vous comprenez ceux qui, comme Marc Véra, s'insurgent contre le guide, voire même attaquent en justice le guide pour dire « Oh, il ne faut pas m'enlever mon étoile, c'est injuste » ou « Il faut se plier au jeu, quoi. C'est le jeu ».
C'est un cas particulier. Je ne sais pas, je ne vais pas, reparler de Marc Véra. On a aussi cette année Paul Bocuse qui a perdu l'étoile. Je crois que tous les cuisiniers ont été un petit peu affectés par ce geste, parce que pour nous, Paul Bocuse, c'est un peu le pape de la gastronomie. C'est lui qui nous a fait sortir des cuisines et qui a donné une autre dimension au métier de chef de cuisine. Après, bon, le guide fait son travail et nous faisons le nôtre. Et puis voilà, mais... J'ai pas apporté de jugement là-dessus.
Et est-ce que vous comprenez les cuisiniers qui disent je ne veux pas rentrer au Michelin, je ne veux pas avoir d'étoile, je ne veux pas avoir cette pression-là sur le dos?
Oui, non, mais on peut toujours le dire. Oui. Est-ce que Michelin écoute?
Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, on peut vous donner une étoile ou deux étoiles, même si
ça s'est passé. Ça s'est passé pour un restaurateur très connu, un chef très connu, qui a voulu sortir du guide. Ça a été accepté. Ce qui m'a surpris, ils l'ont enlevé une année, mais ils l'ont remis l'année suivante en enlevant une étoile.
Donc c'est pas un bon deal. Il faut réfléchir
mais parce que le discours de Michelin est simple. Ils disent quoi? Ils disent nous, on est là pour nos clients, on n'est pas là pour les chefs. Quoi.
C'est vrai.
Mais alors, excusez-moi, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais juste, je me souviens d'un chef qui disait que le problème, dans l'autre sens, c'est que lui, il le percevait comme, il avait l'impression de faire la cuisine pour le guide Michelin, pour les émissaires du guide Michelin, plus que pour les gens.
Non, c'est-à-dire mais c'est faux, ça c'est faux. Non, mais c'est faux. Il faut de toute façon, on fait la cuisine pour les clients qui viennent tous les jours au restaurant. Point barre. De temps en temps, on a le guide Michelin qui vient, il goûte votre cuisine, il la met, il la classe comme il veut. L'important, c'est d'avoir un restaurant plein.
Michel Sarran nous donne rendez-vous ce soir sur M6. On sera là avec Eva. Ah non, vous l'avez déjà vu.
Ah, mais moi, je serai
là
avec vous,
en direct. Ouais. En attendant, il est sur Europe 1 jusqu'à 18h.
Europe 1.
Comme souvent à cette heure-ci, sur le chemin de la maison, vous oubliez de passer faire les courses. On a inventé pour vous Délice in Extremis, la recette qui vous sauve la mise. Recette présentée par un cordon bleu d'exception. Un homme qu'on surnomme désormais le Casanova belge, depuis sa recette de Saint-Valentin qu'il avait proposée à Bérangère Krief vendredi. Une recette délicieuse, sexy et surtout...
Pour Bérangère, je lui proposerais bien de partager un chirachi.
Ah !
Facile, rapide et pas trop cher.
Pas trop cher ? Classe vis-à-vis de Bérangère. C'est-à-dire que vous bien la pécho, mais faut pas que ça vous coûte trop cher non plus, quoi. Délice in extremis, Méradin arrive juste après Gauvin Serre. Il n'y a plus de saison sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission qui muscle vos neurones, frictionne vos zygomatiques et s'occupe aussi de vos papilles. Sous l'œil intrigué de notre invité, le chef étoilé Michel Sarran, s'avance à présent vers le micro, celui qui a parfois défrayé la chronique pour ses positions anti-vegan et pro-côte de bœuf maturé. Pourtant, Olivier Pouls n'a rien contre les végétariens. D'ailleurs, comme il nous le confiait l'autre jour, il serait lui-même végétarien. Si seulement la nature savait se montrer plus généreuse.
Des arbres, vous imaginez, avec les côtes de porc qu'on irait cueillir comme ça, juste avant d'allumer le feu.
Et oui, si la nature était mieux faite, si au lieu de se lancer dans des travaux, Dieu n'avait pas confié plutôt la création du monde à Olivier Pouls, ça aurait été beaucoup mieux finalement si vous aviez eu les clés.
Non mais vous imaginez un verger plein d'arbres avec des côtes de bœuf, des côtes de porc, des côtes d'agneau, tout ça, ce serait merveilleux.
Michel Sarran, je vous présente Olivier Pouls. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui dans Délice in Extremis?
J'ai voulu faire le grand pont. Le grand pont entre votre région, Toulouse, et la mienne, la Belgique. Puisque j'ai vu que vous aviez répondu il n'y a pas très longtemps à une interview en Belgique, vous avouiez que vous ne connaissiez pas très bien la cuisine belge. Vous aviez mangé des croquettes de crevettes, des frites, etc.
La cuisine belge gagne-t-elle à être connue? Je me permets de poser la question.
Oui, oui.
Non, c'est une vraie cuisine de terroir qui a une histoire, qui a un environnement. Et donc, je me suis dit que j'allais créer la fusion entre deux plats ou deux chroniques.
Le risque face à Michel Zan.
Non, mais là, je joue gros.
Et donc, je me suis dit,
non. Des carbonades, mais de canard.
Carbonades de canard.
Eh oui, on pourrait prendre, par exemple, de belles cuisses de canard UGP du sud-ouest de chez vous et les préparer à la façon des carbonades à la flamande. Carbonade qui est un plat qu'on prépare traditionnellement avec du bœuf.
Et c'est facile à faire, la carbonade?
Alors, c'est très facile à faire. Ça prend juste un petit peu de temps, mais c'est vraiment de la cuisine mijotée et facile. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut 4 belles cuisses de canard IGP du sud-ouest de chez vous, mon cher Michel. Et puis, de chez moi, il faut de la bière. il faut une bière. Il faut de la cassonade, parce qu'il y a beaucoup de cassonade dans la cuisine du Nord et dans la cuisine belge. Il faut quelques tranches de pain d'épices, 2-3 tranches de pain d'épices, un oignon et un tout petit peu de farine.
Un peu de chantilly, c'est tout.
Enfin, si vous voulez qu'on en rajoute à la fin.
Et non, c'est vrai, c'est quoi c'est un plat sucré-salé, en fait
C'est très légèrement sucré. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre l'oignon.
C'est très légèrement sucré,
mais c'est contré aussi par l'amertume et l'acidité de la bière. On y met en général à la fin un tout petit trait de vinaigre pour donner du peps. C'est un peu sucré-salé, mais c'est pas très sucré non plus. Parce qu'on ne met pas beaucoup de carbonate. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va émincer l'oignon, on va le faire revenir. On va dorer nos cuisses de canard. On va très légèrement fariner avant de mettre la bière, un petit peu d'eau, nos deux cuillères, simplement deux petites cuillères on ne met pas la moitié du paquet de cassonade, on met deux cuillères à soupe de cassonade, nos tranches de pain d'épices qu'on a coupées en petits morceaux, et on va laisser mijoter ça pendant une heure et demie à peu près, de manière à ce que le canard puisse commencer à confire, et la sauce va évidemment prendre du goût, un peu d'épaisseur, un peu de texture, et puis on va tout simplement récupérer nos cuisses de canard, fait réduire encore un tout petit peu la sauce de manière à la corser. Et puis, il n'y a plus qu'à servir avec une délicieuse bière. Et on a un pont entre la Belgique et Toulouse. Est-ce que vous achetez la recette?
Franchement?
Oui.
Non.
Vous risquez pas de la retrouver chez Michel Sarron, celle-ci, mais vous pouvez la tenter chez vous ce soir.
Non, mais je plaisante. Bien sûr, c'est rissolé, il y a des sucres. En fait, c'est une daube à la bière. Quoi.
Bah, c'est la traditionnelle carbonade à la flamande, telle qu'on l'a fait dans le Nord, mais à part qu'on a remplacé le bœuf par du canard.
Voilà, donc toutes les cuisines sont bonnes. Il faut juste qu'elles soient bien réalisées.
On remercie Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1.
Europe 1.
Le moment fatidique approche. Qui sera élu chroniqueur du jour? Le chef Michel Sarron va passer dans les rangs pour faire son choix parmi nos 4 journalistes en compétition. Il essaiera de les calmer, mais comme dans Top Chef, ce sera dur.
Ça va?
Non. Il n'y a rien qui marche. C'est pas où j'ai mis la pâte qui me restait.
Panique pas.
Non, je panique pas, j'en ai juste plein le cul.
A tout de suite pour la grande finale.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h.
Mathieu Noël.
Alors que Top Chef reprend ce soir sur M6, c'était aujourd'hui la première édition de Top Journaliste. 4 journalistes, une seule couronne récompensant l'auteur du meilleur sujet du jour. Pour les départager, vous bien sûr, mais également notre invité arbitre, un grand chef qui dans sa brigade n'hésite pas à recadrer ses commis, parfois brutalement.
T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs.
Michel Sarron était notre invité aujourd'hui. Et Michel, le moment est venu de trancher, c'est l'heure du qui tout double. Nos journalistes ont 10 secondes pour défendre leur dossier. Jean-Philippe Ballas, pourquoi Michel Sarron devrait-il voter pour vous?
Bah, en général, moi j'aime pas les vidéos virales comme ça qu'on s'échange sur les réseaux sociaux, mais celle-ci, franchement, allez la voir, j'ai tweeté hier, cette petite fille qui éclate de rire sous les bombardements en Syrie. Belle leçon.
Anissé Mbida, pourquoi voter pour votre chronique?
Alors là, franchement,
sur un malentendu, je ne sais pas, mais...
Bah, peut-être parce que en montrant les dérives de l'agroalimentaire, j'ai peut-être mis en lumière la qualité des chefs étoilés qui peuvent nous faire aimer les légumes sans avoir besoin de mettre des artifices.
Très bonne idée. Alain Siroux, pourquoi voter pour vous?
Parce qu'il est sans limite et que j'ai montré que les limites pour le compte, elles étaient asymptotiques. Donc on pouvait essayer de les atteindre, mais d'abord il fallait en rêver.
La gueule d'Eva sur le mot asymptotique, il y a eu un vide qui s'est passé dans son regard.
J'ai
qui était terrible.
Qui est passé moi, là.
Virginie Fulpin, pourquoi voter pour vous? Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas là, vous êtes partie avant. Tant pis pour vous. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs.
Vous votez tous les matins sur Twitter, effectivement, pour vos chroniqueurs préférés. Et c'est Alain Siroux qui remporte les 2 points
Alain
ce matin.
Magic Siroux qui remporte quasiment toujours les 2 points du public. Ouais. Mais moi, mon point à moi, à qui va-t-il? C'est une question que vous posez forcément.
Bien sûr.
Eh bien, aujourd'hui, il va à Jean-Philippe Ballas.
Cette histoire m'a ému,
elle m'a rappelé en plus un de mes films préférés qui a marqué mon adolescence. Et ça, tout le monde s'en fout, mais je tenais à le dire. La vie est belle de Roberto Benigni.
Vous n'êtes pas si jeune alors.
Non, je ne suis pas si jeune, effectivement. Mais vous le savez, ici, c'est l'invité qui a le dernier mot. Mon cher Michel Sarron, qui, selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour?
Je dois avouer qu'on a un très beau niveau.
Mais j'adore.
Finalement, mon choix ira Jean-Philippe Ballas pour ce magnifique sujet. Bravo!
Triomphe de Jean-Philippe!
Je peux faire une confidence, j'ai l'impression d'avoir gagné une épreuve à Top Chef. Je kiffe totalement. Merci.
Ouais, bah, Top Chef, t'aurais pas gagné. C'est Jean-Philippe Ballas qui remporte la 118e journée de l'équipe et sauvage. On remercie notre invité Michel Sarron que vous retrouvez ce soir sur M6 pour une nouvelle saison de Top Chef. Merci d'avoir été avec nous, Michel,
avec
aujourd'hui.
Plaisir.
Merci également à mes équipiers du jour, Eva Rock, Alain Siroux, Jean-Philippe Ballas, Anissé Mbida, Olivier Pouls, sans oublier l'élégante Virginie Fulpin. L'équipe est sauvage revient demain 16h.